VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Nouvelle libération de djihadistes au Mali pour tenter d'obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de la française Sophie Petronin. Nous reviendrons également sur la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Poursuite des combats entre Arméniens et Azerbaïdjanais dans la région séparatiste du Nagorno-Karabakh. En Italie, le gouvernement a assoupli les lois anti-migrants adoptées par l'extrême droite. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Mali, une trentaine de djihadistes ont encore été sortis de prison hier et aujourd'hui, après plus d'une centaine pendant le week-end dernier. Il s'agirait de libérations en relation avec les tentatives pour obtenir la libération de l'opposant Soumaïla Cissé et de l'otage française Sophie Petronin. C'est ce qu'ont indiqué des sources proches des tractations s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Les autorités maliennes et françaises observent un silence total sur les mouvements qui seraient en cours. Soumaïla Cissé, 70 ans, ancien ministre, candidat à la présidentielle et chef de l'opposition, et Sophie Petronin, 75 ans, sont supposés se trouver aux mains de groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda. Les États ouest-africains ont décidé la levée des sanctions imposées au Mali après le coup d'État ayant renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit de soutenir la transition censée ramener les civils au pouvoir, a annoncé aujourd'hui la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les précisions d'Eddy Issango.
Dans une déclaration publiée aujourd'hui au lendemain de la formation du gouvernement malien des transitions, les dirigeants de la CEDEAO disent prendre en compte des avancées notables vers la normalisation constitutionnelle au Mali. Pour soutenir ces processus, les chefs d'État et les gouvernements décident de la levée des sanctions sur le Mali. Ils appellent tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le Mali, peut-on lire dans une déclaration des dirigeants de la CEDEAO signée par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, dont le pays occupe la présidence tournante de l'organisation régionale médiatrice dans la crise malienne. Ces sanctions, au premier rang desquelles un embargo commercial et financier, avaient été imposées au Mali le 20 août. Dans leur déclaration, les voisins du Mali demandent aux nouvelles autorités de la transition de mettre en œuvre rapidement les autres décisions prises par la CEDEAO, en particulier la libération de tous les officiels militaires et civils arrêtés lors du coup d'État du 18 août. Ils réclament également à nouveau la dissolution du Conseil national pour les saluts du peuple, CNSP, l'instance mise en place par les militaires qui ont renversé les présidents Keïta lors d'un coup d'État qui n'a officiellement pas fait des victimes.
Nous reviendrons sur la levée des sanctions et la formation d'un nouveau gouvernement au Mali dans la seconde partie de cette édition. L'état-major du Burkina Faso a annoncé aujourd'hui avoir libéré un sous-officier nigérien captif d'un groupe djihadiste lors d'une opération fin septembre contre une base djihadiste dans la province de la Tapoa, à la frontière avec le Niger. Détenu depuis mars 2020, le sous-officier a été remis aux forces armées nigériennes. En Côte d'Ivoire, 20 personnes, dont l'ex-premier ministre Guillaume Soro, sont accusées de complot et atteinte contre la sécurité de l'État. C'est ce qu'a annoncé le procureur d'Abidjan, Richard Adou. 47 personnes ont été interpellées depuis décembre dans le cadre de cette affaire. Monsieur Adou a répété que les investigations reposaient sur des écoutes téléphoniques et des perquisitions ayant permis de saisir une cinquantaine de fusils d'assaut Kalachnikov et des lance-roquettes. Il a dit avoir bon espoir que le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro en décembre soit exécuté par les autorités françaises. En République démocratique du Congo, 91 enfants ont été tués entre janvier et juin dans des violences en Ituri, dans le nord-est du pays, ce qui s'apparente à des crimes contre l'humanité, a annoncé aujourd'hui l'UNICEF dans un communiqué. La province de l'Itouri compte actuellement 1,6 million de déplacés internes, dont la majorité est constituée de femmes et d'enfants qui ont fui des violences, et 2,4 millions de personnes en besoin urgent d'aide humanitaire, s'inquiète l'agence.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump, sorti hier de l'hôpital où il a été traité pour le Covid-19, se dit impatient de débattre une nouvelle fois avec son adversaire démocrate Joe Biden. « Je me sens bien », a tweeté le président américain. « J'ai hâte d'être au débat lors de la soirée du jeudi 15 octobre à Miami. Cela va être fantastique », a-t-il ajouté, évoquant ce deuxième débat à venir face à son rival, l'ancien vice-président Joe Biden. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a violemment critiqué la Chine lors d'une journée d'échanges quadrilatéraux aujourd'hui à Tokyo avec ses homologues australiens, indiens et japonais, visant à afficher symboliquement un front uni face aux géants asiatiques. Monsieur Pompeo et la ministre australienne des Affaires étrangères, Maryse Payne, ont d'emblée souligné des inquiétudes partagées sur l'activité sournoise de la Chine dans la région Indo-Pacifique, selon un communiqué américain. De violents combats se poursuivent ce mardi entre Arméniens et Azerbaïdjanais dans la région séparatiste du Nagorno-Karabakh, malgré les appels à la trêve et le nombre de victimes civiles. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a affirmé avoir infligé de lourdes pertes humaines et de matériel militaire à l'adversaire, affirmant que les troupes arméniennes étaient forcées à la retraite. Le président de la République autoproclamée du Karabakh a lui affirmé que son armée remplissait avec succès ses tâches et que tout est sous contrôle. Au dixième jour des combats, aucun camp ne semble avoir pris un avantage déterminant sur l'autre. Les deux côtés se sont accusés ces derniers jours d'avoir multiplié à dessein les bombardements sur les zones urbaines habitées. Erevan et Bakou ont jusqu'ici fait fi des appels à un cessez-le-feu de la communauté internationale. Le chef de la diplomatie turque en visite à Bakou a appelé ce mardi le monde à soutenir l'Azerbaïdjan dans son conflit avec l'Arménie au Nagorno-Karabakh et mis en doute l'utilité d'un cessez-le-feu. Le Nagorno-Karabakh, majoritairement peuplé d'Arméniens, a fait sécession de l'Azerbaïdjan à la dislocation de l'ex-Union soviétique, entraînant au début des années 90 une guerre ayant fait 30 000 morts.
Par ailleurs, le Premier ministre arménien a affirmé être prêt à des concessions pour régler le conflit au Nagorno-Karabakh si l'Azerbaïdjan l'est lui aussi. En Italie, le gouvernement a assoupli les lois anti-migrants adoptées il y a 16 mois par le chef de l'extrême droite, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur à l'époque. Plus de détails avec Yacouba Ouedraogo.
Les nouvelles lois sur l'immigration sont l'œuvre de l'actuel gouvernement, une coalition entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Les ONG qui effectuent des sauvetages en coordination avec les autorités nationales ne seront plus condamnées à des amendes, sauf si elles mènent des activités illégales. Sous le gouvernement Salvini, elles encouraient jusqu'à 1 million d'euros d'amende. La nouvelle loi réintroduit l'utilisation du centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, supprimé par Salvini. En plus, les migrants ayant obtenu un permis de séjour auront la possibilité de le convertir en permis de travail. Une protection spéciale est désormais prévue pour ceux qui risquent d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Un mur a été abattu en Italie, s'est félicité Giuseppe Provenzano, un ministre du Parti démocrate. Le gouvernement ouvre les portes et les ports aux migrants clandestins, a réagi Matteo Salvini, qui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait fait de la répression des migrants sa priorité. L'Italie est devenue la principale porte d'entrée des migrants traversant la Méditerranée centrale.
Pandémie de coronavirus dans le monde, les nouveaux cas ont dépassé pour la première fois la barre des 4000 en une journée en Iran, au lendemain d'un bilan record de mortalité quotidienne. En Allemagne, les villes de Berlin et Francfort ont annoncé un couvre-feu, tandis que le gouvernement belge a annoncé de nouvelles restrictions sur la vie sociale et les rassemblements, notamment la fermeture des bars et cafés à 23h. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Cameroun, l'Institut de recherche agricole pour le développement a distribué 300 000 plants de noix de cajou aux paysans de l'Est pour environ 3 000 hectares de terres à cultiver. Ce projet vise à produire et distribuer 5 millions de tonnes d'anacardes en 5 ans pour ensemencer 50 000 hectares de terre. Il permettra au Cameroun de produire 50 000 tonnes de noix de cajou à l'horizon 2025 et de créer environ 150 000 emplois d'ici à 2023. En Angola, la Société publique du pétrole construira un centre de recherche scientifique et d'innovation pétrolière d'ici à 2022 dans son programme de restructuration. Le centre permettra à la Sonangol de renforcer ses connaissances et d'identifier ses projets stratégiques. Il devrait accueillir d'autres institutions telles que les incubateurs d'entreprises pétrolières et la formation professionnelle. Pour terminer, les programmes de soutien du FMI, qui ont dû être intensifiés pour faire face au COVID-19, pourraient condamner environ 80 pays à des années d'austérité, avertissent les organisations caritatives du FMI. La future consolidation budgétaire représenterait près de 5 fois les ressources allouées au paquet COVID-19 de cette année, soit 3,8% en moyenne de la production économique annuelle de ces pays entre 2021 et 2023. Les organisations appellent le FMI à cesser immédiatement de promouvoir l'austérité dans le monde.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Nous reparlons transfert avec la fermeture hier du mercato estival. Grosse surprise avec la pépite ivoirienne de l'Atalanta Bergame. Ahmad Traoré, 18 ans et auteur d'un but en 24 minutes disputées avec le club italien, a convaincu Manchester United qui a déboursé 30 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune prodige. De son côté, l'ailier marocain de 27 ans, Sofiane Boufal, a retrouvé son ancien club Angers en provenance de Southampton. Pour sa part, l'attaquant sénégalais Habib Diallo a rejoint Strasbourg pour 5 ans contre 10 millions d'euros hors bonus en provenance de Metz. Football toujours initialement prévu ce mois-ci, mais reporté à la demande du pays organisateur, le Bénin. Les nouvelles dates des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, zone UFOA-B, sont connues. L'Union des fédérations ouest-africaines a indiqué que les éliminatoires des moins de 17 ans se tiendront du 5 au 20 décembre à Cotonou. Pour les moins de 20 ans, ce sera du 14 au 29 novembre à Lomé, au Togo. Les tirages au sort des deux événements sont prévus pour le 20 octobre à Abidjan. Tennis, Hans Jaber n'ira pas plus loin dans le tournoi de Roland-Garros en France. La Tunisienne, qui avait de nouveau créé l'histoire en devenant la première joueuse tunisienne à atteindre les huitièmes de finale de Roland-Garros, a été éliminée par l'Américaine Danielle Collins 6-4, 4-6, 6-4. Cette dernière, 57e mondiale, s'est qualifiée pour la première fois au quart à Roland-Garros. Elle affrontera sa compatriote Sofia Kenin pour une place en demi. Basketball, Miami déterminé à recoller aux Lakers. Dans le sillage d'un Jimmy Butler étincelant, affronte cette nuit à 1h du matin, temps universel, LeBron James et ses équipiers pour la rencontre numéro 4, déjà cruciale de la finale NBA. Si le Heat s'impose une deuxième fois d'affilée pour égaliser à 2-2, les compteurs seront remis à 0. Si par contre les Lakers refont le break, eh bien, ils ne seront qu'à une victoire d'un 17e sacre record. Athlétisme pour finir, l'Ougandais Joshua Cheptegei, champion du monde en titre du 10 000 mètres, s'attaque demain mercredi à Valence, en Espagne donc, au record du monde détenu par l'Éthiopien Kenenisa Bekele. Cheptegei, devenu à 24 ans la valeur sûre du fonds mondial, s'attaque au mythique record du 10 000 mètres, 26 minutes 17 secondes 53, établi à Bruxelles en août 2005 par Bekele. L'Éthiopien, 38 ans, passé depuis sur la route, a manqué son rendez-vous dimanche avec le marathon de Londres à cause d'une blessure à un mollet. Les deux champions partagent les mêmes managers de l'agence néerlandaise Global Sport Communication qui co-organise la compétition. Coup d'envoi 19h55 temps universel chez les hommes pour le 10 000 mètres, précédé à 19h34 temps universel d'un 5 000 mètres féminin.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibour, toujours avec vous, place au dossier du jour. La CEDEAO a levé aujourd'hui ses sanctions contre le Mali, des sanctions imposées à la suite du coup d'État du 18 août qui a renversé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. La levée de ces sanctions intervient au lendemain de la formation d'un gouvernement de transition de 25 membres, dirigé par un président et un premier ministre civil. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint Sekou Tangara, directeur de la chaîne panafricaine Africable, basée au Mali. Il a été joint à Conakry, en Guinée.
On peut faire, de mon point de vue, deux remarques fondamentales. La première, c'est l'effort qui a été fait en termes de structuration, en termes de minimisation du nombre de portefeuilles. On a vu par exemple qu'il y a eu des efforts pour mettre au niveau du même département l'agriculture, l'élevage, la pêche. Il y a également eu des efforts pour concentrer le tourisme, la culture et l'artisanat. Ça, c'était des remarques qui avaient été faites dans les différents attelages gouvernementaux au Mali. Le citoyen s'est posé la question, pourquoi ne pas mettre dans la même enseigne, dans le même département, un certain nombre de secteurs. Et on voit cet effort à travers ce gouvernement de la transition. La taille peut également impressionner parce que c'est 25 portefeuilles, contrairement à la trentaine, sinon à la quarantaine auxquelles on avait l'habitude d'assister précédemment au Mali.
Et qu'est-ce que vous dites des postes clés occupés par les militaires dans ce gouvernement?
Bon, si 5 départements sur 25 sont réservés à la junte, des départements régaliens comme la défense, comme la sécurité, comme l'administration territoriale, on peut bel et bien dire que la junte, sinon le CNSP s'est taillé la part du lion. Mais je me demande s'il faudrait se focaliser uniquement autour de cela, s'il ne faudrait pas voir également les efforts en termes d'intégration d'ex-rebelles, sinon des Maliens qui, à un moment, avaient des velléités sécessionnistes. Je veux parler de la coordination des mouvements de la Dawad. Je veux parler de la plateforme qui ont trois membres, trois portefeuilles dans le gouvernement. Il y a également trois membres du M5, le mouvement du 5 juin, qui avait mené la contestation qui a abouti au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Moi, je pense que l'heure doit être au travail, quoi, au lieu de se focaliser sur le nombre de postes attribués à tel ou à tel autre.
Alors, l'heure doit être au travail. Quelle doit être la priorité?
Première priorité pour moi, la sécurité. Et deuxième priorité, c'est un peu des réformes institutionnelles, des réformes qui pourraient éviter au Mali des situations pareilles aux dernières législatives, parce qu'il y a eu des contestations, les gens n'étaient pas d'accord avec la Cour constitutionnelle, on a dissous l'Assemblée nationale, tout simplement parce que les Maliens ont pensé que les élections ne sont pas de nature à favoriser une transparence, et là, le bas blesse au niveau des textes. Donc il faut faire un toilettage des textes, pour que dans 18 mois, dans 17 mois, le régime qui sera élu ne soit pas contesté, ne puisse pas amener encore les Maliens dans la rue.
C'était Sekou Tangara, directeur de la chaîne panafricaine Africable basée au Mali. Il était joint à Conakry, en Guinée.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Le prix Nobel de physique a été donné cette année au Britannique Roger Penrose, l'Allemand Reinhard Genzel et l'Américaine Andrea Ghez pour leur recherche sur des régions de l'univers appelées trous noirs. Que sont ces trous noirs et quel est leur impact sur notre planète? Pour en parler, Nani Talani a joint Frédéric Ouattara, professeur titulaire de physique, enseignant à l'université Norbert Zongo à Koudougou, au Burkina Faso.
Donc, je voudrais d'abord dire que ce terme trou noir a été inventé par un physicien américain du nom de John Wheeler en 1967. Et donc, il décrit une concentration de masse énergie qui peut s'effondrer gravitationnellement sous sa propre force gravitationnelle et empêcher ainsi toute matière et toute lumière de s'y échapper. Et donc, de façon simple, on dira que un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de lumière de s'y échapper. Maintenant, combien y a-t-il de trous noirs? On peut dire que grâce aux observations du télescope spatial Hubble, on s'est rendu compte qu'il y a toujours un trou noir au centre des galaxies. Donc, il y a autant de trous noirs que de galaxies, si on peut dire environ 2000 milliards.
Et où se trouvent ces trous noirs et d'où proviennent-ils?
Les trous noirs sont en général au centre des galaxies. Et donc, d'où ils proviennent? Ils se forment normalement en même temps que les galaxies, mais on peut dire qu'ils naissent suite à l'effondrement gravitationnel du résidu d'étoiles qui sont massifs. Voilà.
On aimerait aussi savoir quel impact ces trous noirs ont-ils sur notre galaxie et sur la vie sur Terre.
En général, ce qui est connu aujourd'hui, on peut dire que notre galaxie, en fait, le trou noir qui est au centre Sagittarius A étoile A, à Aphérie, si vous voulez, à étoile, a pu contribuer à la formation de la chimie moléculaire de notre galaxie. Maintenant, l'impact de Sagittarius A étoile sur notre Terre, on peut dire qu'en réalité, comme ça contribue à la formation de la chimie moléculaire, et donc on peut affirmer qu'il peut contribuer à la synthèse moléculaire organique et à la formation, en fait, des molécules d'eau dans notre galaxie. Donc, on pourrait à peu près affirmer qu'il contribue en fait à l'habitabilité en fait de la Terre. Parce qu'actuellement, comme il n'est pas actif, donc on déduit cela à partir du moment où il a été actif il y a des millions d'années en fait.
C'était Frédéric Ouattara, professeur titulaire de physique, enseignant à l'université Norbert Zongo à Koudougou, au Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'infection au coronavirus du président Donald Trump a renvoyé la campagne présidentielle en plein centre de la pandémie qui a fait plus de 213 460 morts pour quelques 7 550 000 cas confirmés et environ 5 millions de guérisons aux États-Unis. Brian Padden revient sur la réaction des électeurs américains, mêlée de sympathie et de critique, certains reprochant au chef de l'exécutif américain de minimiser la gravité de la pandémie et de ne pas suivre les protocoles de santé publique. Récit de Nathalie Barr.
Au cours du week-end, les partisans du président Donald Trump se sont rassemblés devant l'hôpital militaire Walter Reed dans le Maryland pour lui souhaiter un prompt rétablissement alors qu'il était sous traitement contre le coronavirus. Alexandre Bush est l'une de ces personnes venues soutenir M. Trump.
Il est fort, c'est un combattant, donc j'ai tout espoir. Mais ils doivent évidemment prendre toutes les précautions nécessaires.
Dimanche, les partisans de M. Trump ont applaudi lorsqu'il est brièvement sorti de l'hôpital pour saluer la foule de son cortège. Certains experts médicaux se sont dit préoccupés par le fait que deux agents des services secrets étaient dans le véhicule avec le président infecté. Un sondage de Reuters indique que près des deux tiers des personnes interrogées pensent que le président qui a organisé des événements sans porter de masque n'aurait probablement pas été infecté s'il avait pris le virus plus au sérieux. Dans tout le pays, des électeurs ont tempéré leur inquiétude pour la santé du président par des critiques sévères comme Carole Bungard, qui réside dans le Wisconsin.
Je ne veux certainement pas qu'il en meure et je sais qu'il a des symptômes, mais j'espère que ce sera une expérience qui lui permettra de comprendre comment les gens souffrent et meurent, qu'il réalisera que c'est vraiment grave et qu'il commencera à porter un masque.
David Lawatad, un partisan de Joe Biden, a déjà voté dans l'État de Virginie où le vote anticipé à l'élection présidentielle du 3 novembre a commencé depuis le 18 septembre.
On the one hand, people may feel sympathetic toward him.
D'une part, les gens peuvent ressentir de la sympathie envers lui. D'un autre côté, ils peuvent penser que c'est ironique, car il a tellement été anti-masque. Et tout ça.
Pour sa part, la campagne de Donald Trump défend les efforts du président pour limiter l'impact de la pandémie sur l'économie, comme l'a rappelé son conseiller principal Jason Miller sur la chaîne ABC.
Nous ne pouvons pas tous rester dans notre sous-sol jusqu'à la fin de notre vie. Nous devons sortir, vivre normalement et nous atteler à cela, développer le vaccin, développer plus de thérapies et vaincre le coronavirus.
Alors que la campagne de Donald Trump est temporairement suspendue pendant qu'il se remet de la maladie, son rival Joe Biden continue de tenir des événements à distance et virtuels. Quelques 3 millions d'électeurs se sont déjà exprimés lors du vote anticipé par courrier ou en personne à moins d'un mois de la présidentielle qui se déroule dans un contexte particulier en raison de la pandémie et d'une crise ouverte au sein même de la société américaine.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont été pendant longtemps le plus généreux fournisseur d'aide sanitaire et humanitaire au monde. Cette assistance est fournie avec le soutien du contribuable américain dans l'espoir que cela servira à un objectif utile et parviendra aux personnes nécessiteuses. Malheureusement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a gravement échoué, non seulement dans sa réponse au COVID-19, mais aussi à d'autres crises sanitaires ces récentes décennies, a dit le porte-parole du département d'État, Morgan Ortegas, dans une déclaration. En plus de cela, l'OMS a refusé d'adopter des réformes urgentes, à commencer par démontrer son indépendance vis-à-vis du Parti communiste chinois. Résultat, les États-Unis ont annoncé leur date effective de retrait de l'OMS pour le 6 juillet 2021. L'engagement des États-Unis concernant l'aide sanitaire à l'étranger demeure fort. Durant la période menant à ce retrait, l'administration examine des moyens de mobiliser l'expertise de certains départements et importantes agences du gouvernement américain et du secteur privé pour apporter rapidement un soutien aux autres pays pour prévenir, détecter les épidémies des maladies infectieuses, y répondre à la source et répondre aux urgences humanitaires. Depuis 2001, le gouvernement des États-Unis a contribué plus de 142 milliards de dollars pour aider à prévenir, détecter et traiter le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, l'Ebola et d'autres maladies infectieuses. Nous fournissons en moyenne 10 milliards de dollars par an à la santé mondiale et cette année, cela va doubler alors que nous intensifions la lutte contre le COVID-19 dans le monde entier. a dit l'administratrice adjointe de l'USAID pour la santé mondiale, Dr. Alma Golden. Les États-Unis sont déterminés à assurer que le retrait de l'OMS n'affecte pas le niveau général de leur aide sanitaire aux plus vulnérables. Les États-Unis sont en tête de l'assistance sanitaire et humanitaire grâce à l'effort de tous les Américains. Et nous sommes engagés à assurer que notre générosité touche directement les populations à travers le monde, a ajouté Dr. Golden.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix.